Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Ravili Lemel. Ravili Lemel, bonsoir. Shabbat Shalom. Alors, Rav Lemel, ce soir, vous voulez, vous, évidemment, puisqu'on continue notre étude de la paracha, comme chaque semaine, il y a un sujet que vous voyez dans, dans la nôtre, cette semaine, c'est la notion de responsabilité et de transparence d'un dirigeant. On vous écoute.
Oui, en effet, vous avez raison, cette paracha nous ouvre à ces deux notions fondamentales, la notion de transparence et de responsabilité. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est vrai que quand vous lisez le texte de la paracha de cette semaine, a priori, je mets ça bien sûr entre guillemets, il peut y avoir quelque chose qui peut nous apparaître comme étant un petit peu rébarbatif. Car on va reprendre la totalité de toute la construction du sanctuaire, mais au fond, si on regarde les choses de manière un petit peu différente, on est ici comme s'il y avait une forme d'audit. Un audit sur la construction du sanctuaire, du tabernacle dans le désert, le sanctuaire du désert, le Mishkan. Et alors, ici, ça pose la question de la responsabilité de celui qui dirige par rapport à ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, eh bien, Moïse, sait très bien qu'il est responsable, et parce qu'il est responsable, il doit être transparent, il doit rendre des comptes. Alors, évidemment, le terme de rendre des comptes est souvent vu de manière un petit peu péjorative. Rendre des comptes, c'est au fond comme si on était dans une forme de soupçon. Rappelons-nous cet enseignement de nos maîtres, de nos sages qui nous disent « Vihiyitem nekiyim me'Hachem umi Yisrael ». Traduction, vous serez nekiyim, propre, le NHM aux yeux de Dieu et aux yeux du peuple d'Israël. Il ne suffit pas juste de se dire « mais au fond, je suis droit avec moi-même, je suis droit dans mes bottes, j'ai la conscience tranquille, je sais très bien où j'en suis, je sais très bien que je suis quelqu'un qui a essayé d'être honnête et que là-dessus je n'ai pas de soucis ». C'est vrai, vis-à-vis de Dieu, sans aucun problème, mais Israël a besoin de savoir cela aussi. Et c'est intéressant de constater que lorsqu'on va nous demander des comptes, eh bien on se doit de les donner. Vous savez, on va essayer de s'imaginer la chose suivante. On a quand même ici Moshe Rabbeinu, Moïse, qui est là, et on va lui demander des comptes, on va le soupçonner d'avoir fait du détournement de fonds. C'est quand même un petit peu fort, c'est a priori surprenant. Surtout Moshe qui se bat pour son peuple de manière constante. Eh bien pas du tout, Moshe n'a aucun problème, il dit « vous avez raison, je vais donner des comptes » et il va expliciter à quoi chacune des sommes d'or, d'argent, tout ce qu'il a reçu, à quoi cela a servi. Et dans ce texte, en effet, on va reprendre cela intégralement dans tous les détails. Et évidemment, pourquoi cela? Rappelons-nous que Yitro, le beau-père de Moshe, lorsqu'il avait dit à son gendre qu'il devait prendre des chefs qui allaient l'accompagner dans la direction du peuple d'Israël, eh bien, il avait avant tout défini des gens Anche Emet, Sone Batsa, des individus qui sont des individus de vérité, qui ont vis-à-vis de la possession, vis-à-vis de l'avoir, une forme de siné, une forme de haine, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout intéressés par l'univers du pouvoir, qui ne sont pas intéressés par l'univers de la possession, et c'est ceux-là véritablement qui pourront diriger le peuple d'Israël. Donc on a déjà ici cette première notion, c'est que lorsqu'on a une responsabilité, on se doit un moment de faire preuve de transparence. Alors, la question est de savoir, au fond, pourquoi cette notion de transparence est-elle nécessaire? Est-ce que c'est juste pour pouvoir le faire par rapport au peuple d'Israël? C'est-à-dire, le peuple d'Israël a besoin de savoir? Ou est-ce qu'il y a aussi une autre raison? Eh bien, on va découvrir qu'il y a peut-être d'autres raisons. Pourtant, vous allez dire, mais attendez, on est dans la construction du sanctuaire, comment pouvez-vous soupçonner, imaginer que quelqu'un va détourner de l'argent de la synagogue? Quand même, c'est pas possible. Eh bien, c'est peut-être pas si simple que cela. Vous savez que dans la Torah, on nous parle des korbanot, c'est-à-dire des offrandes. Alors, les offrandes que l'on amenait au temple avaient un certain nombre de règles. Et il faut savoir que lorsqu'on amenait une offrande, la notion de kavana, c'est-à-dire l'intention que l'on avait, la pensée qui accompagnait une offrande, est fondamentale. Et chaque offrande avait des règles précises, entre autres, de la manière dont elle devait être éventuellement consommée. Et elle devait être consommée dans un laps de temps déterminé et dans un cadre déterminé. Au temple de Jérusalem, certaines des offrandes devaient être consommées à l'intérieur, par exemple, du temple, alors que d'autres pouvaient être consommées à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Certaines offrandes pouvaient être consommées juste le jour même et la nuit qui suit, et puis d'autres un peu plus longtemps. Eh bien, la Torah nous dit que lorsqu'une personne, au moment où elle amène une offrande, dans sa tête pense qu'elle sera consommée, mais dans d'autres règles, c'est-à-dire vous êtes au sanctuaire, vous êtes dans le temple, vous amenez l'offrande, et puis dans votre tête vous dites « Oui, oui, je sais très bien que ça, je dois le manger que dans le temple, mais dans ma tête je décide que je vais le manger dans les murailles de Jérusalem. » Ou alors « Je sais très bien que ça doit se manger dans ce laps de temps, mais dans ma tête je décide que je vais fonctionner autrement. » Même si concrètement vous ne l'avez pas fait, vous avez juste l'idée dans votre tête, eh bien le korban, l'offrande, est inapte. Et la question se pose ici, mais c'est quoi cette histoire de fou? Vous êtes dans le temple de Jérusalem, on est dans le temple, on amène une offrande, donc c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans ce que la Torah nous demande. Mais malgré tout, on dit, je ferai ce que je veux. C'est quelque chose d'assez fou. D'ailleurs, on voit que les habits des kohanim, des prêtres, n'avaient pas de poche. Pourquoi? Pour ne pas les amener peut-être éventuellement à imaginer mettre quelque chose dans leur poche alors que ça appartient au temple. Mais vous êtes dans le temple, vous êtes dans le sanctuaire. Comment est-ce imaginable? Et ici, la Torah nous remet face à notre réalité. On peut être dans le temple de Jérusalem, on peut être en train de construire le temple, on peut être en train de construire le sanctuaire, on peut être en train d'amener une offrande et malgré tout, transgresser par ailleurs. Malgré tout, se dire « je ferai quand même ce que je veux ». C'est-à-dire « je suis face à Dieu, mais je fais quand même ce que j'ai envie ». Et au passage, surtout en ce qui concerne les prêtres qui sont dans le temple, alors la construction du sanctuaire, l'attrait de l'argent, qui peut être tellement fort, qui peut amener une personne à oublier là où il se trouve. Tu es en train de construire le sanctuaire et tu détournes de l'argent. Et oui, c'est dans le domaine du possible. Et rappelons-nous que parfois les personnes, eh bien, on peut construire toutes sortes de justifications dans notre tête. Et à partir de cela, ne pas se sentir trop coupable d'avoir pris de l'argent qui ne nous appartient pas et qui appartient à la communauté. Et si on réfléchit, quand on est à la synagogue et qu'on laisse les lumières allumées alors qu'on devrait les éteindre, lorsque l'on prend du papier et puis on le jette un petit peu, ou alors que l'on gâche certaines choses, c'est un petit peu la même problématique. On est dans une forme de microcosme, dans un lieu qui symbolise le sanctuaire, et pourtant, cette loi que la Torah nous demande d'être vigilant par rapport à l'argent qui ne nous appartient pas, et a fortiori ici, l'argent de la communauté, eh bien, on met ça un petit peu de côté, on l'oublie. C'est ça tout l'enjeu, c'est ça toute la difficulté. Alors, on peut être dans le temple et malgré tout oublier ce que Dieu attend de nous parce que tout simplement, on n'a peut-être pas envie de faire les efforts. « Vi'item nekim Hashem om Israël » Vous serez propres aux yeux des enfants, aux yeux de Dieu et aux yeux d'Israël. C'est aussi se rappeler qu'un responsable communautaire se doit d'être transparent. Ça veut dire qu'on se doit de rendre des comptes. Lorsque quelqu'un vous demande des comptes, eh bien, il a le droit de savoir où son argent est passé. Il donne de l'argent. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de la communauté. Il est normal de savoir où, comment et de quelle manière cet argent est dépensé. Souvent, c'est vu comme étant une forme de remise en cause de notre intégrité. Pas du tout. Moshe Rabbeinu ne s'est pas du tout senti affecté. Au contraire, il a dit, mais évidemment, c'est normal, vous avez le droit. Et au passage, on est toujours gagnant parce que soit les gens constatent qu'on gère les choses de la plus belle manière qui soit, et c'est très bien, soit ils constatent qu'il y a peut-être des erreurs de gestion, eh bien ils rendent le plus grand service à la personne qui a cette responsabilité, parce que grâce à leur regard, ils vont permettre à ce que les choses se passent le mieux possible. Évidemment, ceci doit se passer dans une atmosphère positive, une atmosphère de bienveillance, on ne rentre pas dans l'air du soupçon, mais tout simplement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, voilà un petit peu quelques leçons que cette paracha est en train de nous donner et qui, au fond, sont extrêmement actuelles. Aussi bien cette vigilance dans le rapport au vol, lorsque l'on est dans le sanctuaire et qui va avoir une incidence dès lors qu'on est confronté à ce qui appartient à la communauté, faire attention à ce qui appartient à la communauté, comme si c'était des choses qui nous appartenaient à nous. Cette capacité que l'on a, même dans le temple, de dire on fera ce qu'on veut avec cette histoire des prêtres ou de ces personnes qui amènent des offrandes, qui disent on amène, mais on fera quand même ce qu'on veut, comme quoi on a tous cette difficulté de se dire mais je veux quand même faire comme je veux. Et puis aussi, cette notion de transparence qui est fondamentale et qui, quelque part, permet de construire des choses qui vont être pérennes. Alors, à nous de savoir en tirer les conclusions, chacun de notre côté.
Ravelli Lemel, merci. Je voudrais aussi rappeler aux auditeurs que vous donnez une conférence le mercredi 20 mars, donc en fait c'est mercredi prochain, à 20h30 au Salon H, avec un homme qui est un homme important, qui vient de Jérusalem, qui est le professeur Dov Maimon, qui est directeur de recherche au Jewish People Policy Institute, et vous allez essayer de réfléchir avec nous, 5 mois après le 7 octobre, de l'électrochoc au bilan. C'est au Salon H, il y a une petite participation aux frais parce qu'il y a un buffet dînatoire, c'est 15 €. Donc mercredi 20h30 au Salon H, de l'électrochoc au bilan, vous Ravelli Lemel avec le professeur Dov Maimon. Voilà, merci et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom. Rav Mordechai, alors il y a une expression dans notre paracha qui revient 17 fois et qui est Asher Tziva Hashem. C'est comme l'a ordonné Dieu. 17 fois, ça fait beaucoup quand même, parce qu'en plus on sait que la Torah, elle n'aime pas utiliser trop de mots. Il faut le savoir, ça. Chaque mot est très précis et il n'y a pas de redondance normalement. Donc il n'y a pas de redondance. Alors pourquoi insister, sachant par ailleurs que construire le Mishkan, on sait tous que c'est Dieu qui l'a voulu, et donc même à la limite, même une fois, ça sert à rien. Excusez-moi de parler comme ça, mais... Et donc voilà, que veut dire précisément cette expression « Asher Tziva Hashem » et pourquoi on le répète autant?
Oui, mon cher Bernard, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem à toutes et à tous. De très très bonnes nouvelles pour Amisraël, on va se souhaiter, puisqu'on est dans le mois de Hadar, un mois de Simcha, un mois de joie, on va se souhaiter d'assister à la libération des otages, de tous les otages. On va souhaiter qu'Israël puisse remporter une victoire totale et terminer tout le travail qu'il a commencé à, notamment Rafah, et que donc l'appareil militaire du Hamas soit sinon écrabouillé, du moins maîtrisé. Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout à Israël, et surtout, puisqu'on entend tous les incidents qui se sont déroulés à Sciences Po et les incidents qu'il y a eu en France, c'était que les Juifs de France, les Juifs du monde entier, d'une manière générale, mais on parle avec des Français maintenant, que les Juifs de France soient protégés, que Hashem nous protège des agresseurs et de ceux qui les soutiennent. Alors, il y a un point fondamental dans cette paracha et qui s'exprime beaucoup dans la paracha de Pekoudé, qui est répété 16 fois, et en fait même une 17e fois c'est répété, la formule « Kasher Tziva Hashem ». Les Bnei Israël, les enfants d'Israël et Moshe Rabbeinu ont mis en place le Mishkan, le tabernacle, comme Hashem l'avait ordonné. Il y a une redondance de cette formule qui est répétée en fait 17 fois, parce qu'il y a même une petite répétition. Et là il y a un point qui est tout à fait fondamental. Pourquoi est-ce que la Torah insiste avec tellement de force sur l'idée que la mise en place du tabernacle du Mishkan, elle se fait comme Hachem l'a ordonné. Elle ne peut pas se faire autrement que comme Hachem l'a ordonné. Qui aurait eu l'idée de construire un Mishkan, un tabernacle, si Hachem ne l'avait pas ordonné? Et qui aurait eu l'idée de le concevoir tel qu'il a été conçu si Hachem ne l'a pas ordonné? Et donc, tout à fait évident que si Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël ont mis en place le Mishkan, eh bien, ils l'ont mis en accord avec ce que Hachem a ordonné. Alors avant d'aller répondre à cette question, je voudrais qu'on s'interroge tous sur cette notion de faire la volonté de l'autre. Vous savez que lorsque les gens nous disent ce qu'ils veulent, eh bien il y a 3 niveaux de compréhension, on dit il y a 3 niveaux de rapport avec la volonté de l'autre. D'abord il y a ce que l'autre dit, il dit je veux ça, donc il l'a exprimé, donc je vais faire ce qu'il a dit. Mais parfois j'aime tellement la personne qui m'a demandé, et je l'apprécie tellement, que je vais en faire un peu plus, la personne va me dire non seulement tu as fait ce que j'ai dit, mais en plus tu m'as compris. Tu as compris ce que je voulais. Et je ne l'avais même pas dit, mais tu as compris ce que je voulais. Il y a un troisième niveau, c'est que la personne m'a demandé une chose, et je vais faire ce qu'elle a dit, je vais faire effectivement ce qu'elle veut, d'accord? Mais elle va me dire aussi autre chose, elle va me dire, j'ai l'impression que finalement, d'une certaine manière, même si je te l'avais pas demandé, bah, tu l'aurais quand même fait. Et je sais qu'en fait, je peux compter sur toi. Donc, il y a ces trois niveaux de volonté d'exprimer, d'accord? Il y a ce que je dis et l'autre va le faire. Il y a ce qui est contenu dans ce que je dis, d'accord? Et que l'autre comprend intuitivement d'une certaine manière. Et il y a le fait que l'autre peut compter sur moi. C'est-à-dire que même si je ne l'avais pas dit, de toute façon, il l'aurait fait. Il aurait pensé à ça. Il aurait pensé, ou en tout cas, à me demander ce que je veux. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Vous savez qu'en hébreu, pour parler du lien, on parle du kécher, on parle du ribour. Le kécher, c'est le lien. Le ribour aussi, c'est le lien. Mais ce sont deux mots qui obéissent à des significations très différentes. Dans le mot kécher, le lien, il y a les lettres du shéker, du mensonge. Et d'une certaine manière, beaucoup de liens se tissent un petit peu autour du mensonge. Alors de quoi il s'agit, par exemple? Par exemple, le mensonge de la séduction. Au départ, il y a la séduction. Mais quand on dépasse l'écran de la séduction, on rentre dans la relation de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus profonde. Donc il y a un premier lien qui est le kécher. D'accord? C'est un lien, il est fort. Mais, par exemple, pour qu'il soit fort, dans les lois du Shabbat, il faut que ça soit un kécher chez le kayama. Il faut que ça soit un lien qui tient. D'accord? C'est un double nœud. Parce que dans un kécher, dans un lien, il y a toujours une part au départ de séduction, une part de on va dire d'intérêt, ou en fait finalement un effet miroir qui est pas forcément lié à la volonté d'être en lien avec l'autre. Et il y a le ribour. Ribour, c'est le mot chaver, d'accord, chaverot. On parle plusieurs fois dans la paracha de ces tentures qui étaient chaverot, d'accord. Elles étaient liées. Alors là, c'est déjà autre chose parce que c'est une intrication, c'est un lien plus intime. On parle de quelqu'un qui écrit un livre, il est mechaber, un sefer. Ça veut dire qu'il a écrit le livre, mais il a établi un lien profond avec sa pensée qu'il a mis par écrit et qu'il exprime de manière complète, et j'allais dire même exhaustive. On pourrait même ajouter que le mechaber, que celui qui écrit un livre, c'est quelqu'un qui, même lorsqu'il va disparaître, son livre va rester. Donc le lien qu'il a construit avec les gens qui vont le lire est un lien qui va continuer à s'exprimer par-delà la mort et la disparition. Alors, quand dans la Torah, ici, on nous dit que les Israélites ont fait kasher tziva Hashem, comme Hashem l'a ordonné, on vient nous dire les choses suivantes. En fait, au départ, quand les Israélites ont reçu la Torah, ils ont établi un kasher avec Hashem, ils ont établi un lien. Mais ce lien, il y avait une part, entre guillemets, de shéker, de mensonge, dans ceci que finalement, comme la Gemara le dit dans Shabbat, à un moment donné, Hashem va retourner la montagne sur eux. Il leur dit, si vous acceptez ma Torah, Moutav, c'est bien, mais si vous acceptez pas, Cham, là-bas, sera votre sépulture. Et les commentateurs disent, mais les Bnei Israël avaient déjà accepté la Torah. Ils avaient déjà dit, Naaseh v'Nishma. Ils avaient déjà dit, nous, on veut la faire, cette Torah, et on veut l'étudier, et on veut en pénétrer les arcanes. On veut la comprendre. Alors, pourquoi cette manipulation, si je puis dire, où on retourne d'une montagne, on la met sur les Bnei Israël? Bah, l'idée, elle est la suivante, elle est que quand un homme s'engage, il peut se rétracter. Mais s'il est tenu par un engagement que Hachem va mettre avec nous, alors là, c'est tout à fait autre chose. Là, ici, on est dans un lien qui est un lien beaucoup plus intime et beaucoup plus fort. Mais lorsque les Bnei Israël vont construire le Mishkan, c'est après que Moshe Rabbeinu ait obtenu le pardon pour la faute du Vaudor, qu'il redescend de la montagne, et que là, les Bnei Israël reçoivent à nouveau la Torah. Cette fois-ci, c'est un lien dans la discrétion. C'est un lien dans l'intimité de la relation avec Hachem. C'est un lien dans l'amour absolu vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de la Torah. C'est un lien inconditionnel. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, Hachem vient et dit « Je ferai reposer ma shrina, ma présence divine sur le peuple juif. » Et les midrashim, les textes disent « Même si le Beth Amikdash est détruit, ce lien continuera. » Le lien intime avec le peuple juif qui s'appelle la shrina, la présence divine qui est présente dans la vie du peuple juif, qui s'impose dans la vie du peuple juif, qui est là. Bien, ce lien est indestructible. Et c'est ce qu'on veut nous dire lorsqu'on nous dit comme ça, 17 reprises, que finalement les Israël ont agi selon la volonté d'Hachem. C'est qu'ils ont dépassé le kécher, le simple lien. Ils sont rentrés dans le ribour, dans un lien beaucoup plus intime. C'est un lien indestructible. C'est le lien avec la shrina, avec la présence divine. C'est le lien qui accompagne les Israël tout au long de leurs exils. C'est le lien qui les accompagne jusqu'à le jour. Même lorsque les cannibales nazi-islamistes du Hamas perpètrent des horreurs. Et même lorsqu'en France, des groupes antisémites se lèvent et soutiennent des entreprises génocidaires. Eh bien oui, ce lien, il est là. Am Israël, il est là. Il est protégé. Am Israël, il est protégé par Hachem, il est protégé par sa Torah, il est protégé par la présence divine qui veille sur chacun d'entre nous et sur Am Israël. Et donc quand les bénis d'Israël vont faire ce qu'Hachem a ordonné, ils vont faire non seulement ce qu'il a dit, ils vont faire même ce qu'il veut, mais ils vont montrer à Hachem, tu peux compter sur nous, nous sommes ton peuple, et tu es notre Dieu, et nous faisons un avec toi. Et c'est sur cet épisode que se conclut Shemot, parce qu'en fait, toute l'histoire de la naissance du peuple juif et de sa descente dans l'exil, dans l'enfer concentrationnaire égyptien, puis ensuite plus tard de sa libération, puis de la mer Rouge, puis de la Torah que nous recevons, l'objectif ultime, c'est le Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, le temple, le Mishkan, le temple portatif du désert, ce qu'il exprime, c'est la présence divine dans le peuple juif. Ce qu'on appelle Ashraat Ashrina. C'est-à-dire le fait que la Shrina, la présence divine, est là, et qu'elle veille, en quelque sorte, à ce que le peuple juif donc soit protégé. Alors évidemment, cette présence, elle est interactive. Elle est toujours au prorata des mitzvot que nous accomplissons, et de la manière dont nous les faisons, et de la manière dont nous désirons les faire, évidemment. La puissance d'un lien, elle se mesure de cette manière. Mais en tout cas, c'est ce que vient de nous apprendre ici le Parashat Pekudé, et c'est une donnée tout à fait fondamentale, parce que c'est ce qui va se jouer aussi autour de l'histoire de Pourim, on en parlera la semaine prochaine. Dans l'histoire de Pourim, ce qui se joue, c'est qu'à un moment donné, la présence divine peut, en quelque sorte, être éjectée d'Am Israël. Là, Am Israël est en danger, il rencontre Aman. C'est toujours cette question qu'il faut se poser dans les épreuves, finalement. Quelle était sur l'échelle de Richter, de 0 à 10, l'intensité de notre désir d'être avec Hachem, avec ses mitzvot, avec sa Torah? Parce que c'est ce qui conditionne l'imprégnation de la Shrina et de la présence divine sur Am Israël. À réfléchir pour nous tous, et nous toutes d'ailleurs.
Rav Mordechai Biton, merci, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, et des très très bonnes nouvelles pour nous tous.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh, alors vous voulez intervenir puisque en fait on est en train de finir le livre de Shemot, à qui on donne rendez-vous d'ailleurs évidemment pour l'année prochaine, et on n'arrête jamais. Et vous voulez, voilà, puisqu'on continue de réfléchir sur la problématique de la construction du Mishkan, vous dites, oui mais en quoi est-ce que ça nous aide, en quoi est-ce que ça nous enseigne à nous construire, nous? Et là, évidemment, c'est passionnant. Alors, on vous écoute.
Alors d'abord, effectivement, je vous rappelle que le Mishkan, c'est une histoire ancienne, puisqu'on ne construira plus de Mishkan. Il y aura un troisième temple, le troisième Beth Amikdash, mais qui sera, on dit qu'il descendra en feu du ciel, et qu'en plus, même le Beth Amikdash à Jérusalem n'avait pas les mêmes dimensions, ni la même, était beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux que celui, que le tabernacle. Donc en fait, elle nous donnait tant de détails sur quelque chose qui n'a plus, qui n'aura plus d'application pratique, ça peut être étonnant. Mais comme vous le savez, la Torah est un livre d'enseignement, et il nous apprend à nous construire, et donc je voudrais, c'est effectivement saisir cette occasion, c'est la dernière paracha, ce sera quand même la quatrième, c'est impressionnant, quatre parachiotes qui sont consacrées au descriptif du Mishkan, c'est quand même incroyable, et bien de revenir sur deux ou trois détails, qui ne sont pas vraiment des détails, sur la symbolique du Mishkan. Alors déjà, on va remarquer ce que dit le Baal HaTorim. Le Baal HaTorim nous fait remarquer qu'à plusieurs reprises dans Pekoudé, on nous dit qu'Hacher tziva Hachem et Moshe. Comme Hachem a ordonné à Moshe, ça revient 18 fois, et même une 19e fois, mais sous une forme un peu différente. Mais on rappelle encore le fait que Moshe a appliqué la volonté d'Hachem et a respecté les règles et les lois qui lui ont été imposées. Donc à 19 reprises, 18 fois exactement de la même façon, les mêmes mots, et une 19e fois d'une façon différente, ça nous fait penser à la Shemona Esrei, dit le Baal HaTorim. La Shemona Esrei qui est composée, on le sait, de 18 bénédictions plus une, c'est-à-dire c'est une 19e qui a été rajoutée après. Et donc il y a un parallèle qui est très intéressant. Et en plus, il y a 113 mots qui terminent, si on associe toutes les bénédictions qui terminent, vous savez que la Shemona Esrei est composée de bénédictions, mais la bénédiction commence par Baruch Ata Hashem et termine par Baruch Ata Hashem. Donc prenons l'exemple de la première bénédiction, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Donc c'est combien de mots? Baruch Ata Hashem Magen Avraham, 5. Et ainsi, on ajoute les 5 mots de la deuxième, la troisième, ainsi de suite. On obtient 113 mots, comme les 113 mots qui sont dans Pécoudé. Donc on va faire un parallélisme entre la Amida, la Shemoneh Esrei, la prière que l'on fait à voix basse, puis après qu'on répète à voix haute, à Shacharit et à Mincha, eh bien c'est ce qui est vraiment le cœur de la Tfila, à la construction du Mishkan, qui a été faite selon les ordres. Ça veut dire qu'en fait, le Baal HaTurim nous dit qu'il y a ici une symbolique très intéressante au niveau du sens qu'on doit avoir à la prière. Une prière, pour nous, c'est un moment où la Shekhina réside sur nous, à tel point qu'il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie, parce qu'on fait une coupure entre lui et la Shekhina. La présence divine est censée être devant tout celui qui prie. Alors évidemment, il faut prier avec ferveur, avec concentration, avec cœur, et effectivement, c'est ce que me rappelle ici le Baal HaTurim, le Mishkan, résidence, lieu de résidence de la Shekhina, le juif en prière, moment où Dieu apparaît et devant nous. Il faut d'ailleurs faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière, d'abord 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant, pour se mettre au diapason, se connecter, comme on dit aujourd'hui, se concentrer, éviter énormément de choses qui peuvent nous perturber, évidemment mettre son téléphone sous mode avion, être totalement concentré. Donc ça, c'est un premier point de corrélation entre notre paracha et notre vie quotidienne. Il y a une autre chose que je voulais rappeler, il y a évidemment une corrélation entre les ustensiles du Mishkan et notre corps, le corps humain. Vous avez la tête, et la tête, le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, est entourée de 3 caisses. On met l'Arche Sainte dans 3 caisses, une caisse à l'intérieur de l'autre. Et dans le crâne, vous avez 3 membranes, et évidemment la boîte crânienne, mais il y a aussi des membranes. En tout, vous avez 3 éléments qui protègent le cerveau. Le cerveau dans lequel nous sommes censés mettre des belles choses, c'est-à-dire la Torah, et comme Aaron HaKodesh qui se trouve dans les 3 caisses, donc il a dedans, l'Aaron HaKodesh contient les louchot qui sont à l'intérieur du Aaron, ainsi à l'intérieur du cerveau de chaque juif, il doit y avoir de la Torah. Ensuite, il y a le parochet, donc ce rideau qui sépare le saint des saints du saint, qu'on appelle le Hichal, le Kodesh, dans lequel il y a 2 objets principaux, la table et la menorah. La menorah, le candélabre, il est en face de la table sur laquelle il y a les pains de proposition, qu'on l'a changé chaque Shabbat. Ces pains représentent Malchut, la royauté, la Hashirut, la richesse, donc ça veut dire une vie terrestre, matérielle. La menorah, la vie spirituelle à travers l'éclairage de la Torah. Et ce qui est très intéressant, vous ferez attention ce Shabbat lorsque vous écouterez la Kriyat HaTorah, on nous donne l'emplacement du Shulchan en disant la table, elle se trouve au nord. Par contre, on nous dit que la menorah, elle est en face de la table. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'abord de la menorah, puis après du Shulchan. On aurait pu dire d'abord spiritualité avant matérialité. Non, on commence par mettre en place la Shulchan, la table, en disant qu'elle est au nord, et puis évidemment au sud, en face, il y a la menorah, mais on ne parle pas du lieu, on dit en face du Shulchan, en face de la table. Parce que, effectivement, le rôle de la Torah représentée par la menorah, c'est une Torah éclairante, c'est-à-dire une Torah qui vient nous donner des enseignements pour nous expliquer comment vivre dans une vie dans laquelle on a énormément d'épreuves, de mises à l'épreuve et de tentations et aussi d'objectifs matériels qui doivent être réalisés, mais être réalisés à la lumière justement de la menorah. La Torah n'est pas un livre de théorie et intellectuellement parlant brillant, c'est sûr, et il nous apporte beaucoup de plaisir intellectuel, mais la Torah c'est une hora'a, c'est un or, c'est une lumière, c'est éclairer l'obscurité, c'est-à-dire nous dire à un juif comment faire ? Je donne souvent cette image. Lorsque vous recevez un appareil sophistiqué, prenons l'exemple de Darty ou de n'importe quelle autre marque, magasin qui vend des appareils plus sophistiqués, de l'électroménager par exemple, vous avez besoin d'une notice explicative. Aujourd'hui, c'est des disquettes, ou bien sur Internet, vous avez la notice explicative. Lorsque nous avons été livrés, entre guillemets, nous avons été créés au moment de la création du monde, Hachem avait bien décidé de nous donner la notice explicative qui, pour nous, est la Torah. La Torah, c'est une façon de nous dire comment un être humain, avec toutes ses problématiques, mais aussi ses forces, ses ressources, peut-il s'épanouir et devenir un homme grand, un homme de qualité, un homme noble, un homme qui sait maîtriser ses pulsions, tout cela, c'est la Torah qui nous l'apprend. Donc, d'abord, tu mets la table, c'est-à-dire tu mets en place un système dans lequel tu vois bien qu'il y a une réalité terrestre avec laquelle il faut se mesurer, et en face, tu mets la menorah pour éclairer et nous dire, voilà, mais quelle solution on a, comment on s'y prend, comment on réagit face à toutes ces problématiques humaines et terrestres qui exigent de nous des réponses et des solutions, c'est la menorah. Par contre, le Aaron, l'arche sainte, qui est dans le Saint des Saints, n'est jamais ouverte, on n'y pénètre qu'une fois par an, et encore le Kohen Gadol, et encore à Yom Kippour, à certains moments. Donc c'est un lieu un peu fermé. Il parle de la Torah dans son authenticité. La Torah, c'est quelque chose qui a précédé la création du monde, qui est une vérité, on va dire, qui n'est liée ni au temps, ni à l'espace, qui dépasse de loin notre petite condition d'homme. Et donc, effectivement, il y a cette dimension de Torah. Mais la Torah, elle était, le Aaron était tenu par des barres. On appelle Badé Aaron, les barres du Aaron, de l'Arche Sainte. Ces barres touchaient le parochet, ce rideau. Et il y avait une évocation des seins d'une femme que l'on voyait à l'extérieur du côté du Kodesh. C'est-à-dire qu'on voyait un petit peu les barres. Et l'idée, c'était évidemment de montrer que le Aaron devait donner, comme une femme va nourrir son enfant avec le lait maternel. Ainsi, Hachem nous dit, le Aaron, l'Arche Sainte, doit être perceptible dans le Kodesh, dans la partie plus proche de la matérialité, avec le Shohan, mais on doit s'inspirer de cette vérité qui ne dépend ni du temps, ni de l'espace, cette vérité qui est éternelle et qui précédait la création du monde et qui la continuera même lorsque le monde disparaît, c'est la Torah. Et il faut qu'on s'inspire de cette vérité et qu'on essaye de la traduire avec la menorah et le Shohan, pour essayer d'avoir une vie terrestre classique. Prenons un autre exemple du Mishkan, et c'est symbolique. Vous avez le Mizbeach, c'est-à-dire l'autel sur lequel on brûlait les sacrifices. Cet autel fait penser aux intestins et à l'estomac, donc encore une fois le corps humain, alors que le Shulchan et la Menorah, on pense plutôt à la poitrine avec le cœur et le poumon. Donc l'ensemble cœur-poumon, c'est Shulchan et Menorah, donc je respire, c'est le Ruach, la partie spirituelle en même temps Ruach du souffle, ce qui me permet de vivre et qui est en fait au centre de mon corps et qui est donc le cœur c'est véritablement, comme on le dit, le cœur des choses, le centre des choses. L'être humain doit absolument construire sa sensibilité et développer sa sensibilité à la spiritualité. C'est le rôle, donc la menorah du Shulchan, de nous le rappeler, et ça ressemble au corps humain. Donc on a ici la tête avec le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Vous avez le Shulchan, la menorah, c'est la poitrine avec le cœur et les poumons. Vous avez le Mizbeach à l'extérieur, donc c'est l'autel, c'est-à-dire les intestins, l'estomac. Et vous avez le Mizbeach HaZahav, le Mizbeach en or, sur lequel il y avait les Ketoret. Lui, il a été mis d'une façon intéressante, pas du tout avec les autres outils, les autres ustensiles du Mishkan. Il a été mis à un autre endroit, c'est-à-dire il a été placé dans la Torah à un endroit très différent, parce que lui, il vient surtout rappeler qu'une fois qu'on a tout mis en place, il faut savoir dégager une bonne odeur. Ça veut dire quoi, dégager une bonne odeur? Il faut que la Torah, la pratique religieuse, la façon de vivre notre Torah, soit donne réach nichoir, une bonne odeur pour Hachem et pour tous ceux qui s'en approchent, c'est-à-dire être capable de faire envie, de donner envie aux autres d'adhérer à ce message divin. Et pour cela, il faut savoir avoir 11 ingrédients des Ketoret, 11 parce que c'est 10 plus 1, un qui sent mauvais, Chelbona, la galbanum, qui s'associe aux 10 autres ingrédients qui sont donc des plantes odoriférantes qui donnent une très bonne odeur. Vous le mélangez, ça donne une très bonne odeur, mais s'il est seul, il est seul, il sent très mauvais. Donc cette capacité d'intégrer des juifs qui ont peut-être un passé ou un présent pas très reluisant, mais être capable de les associer au Minyan et de les intégrer dans le Minyan et leur donner envie de s'améliorer, de faire teshuvah, tout cela c'est les Ketoret qui le représentent d'une façon extraordinaire. Et donc effectivement, tout cet ensemble est là pour nous donner des messages très forts sur notre quotidien. Et on espère que justement chacun d'entre nous comprendra que lorsqu'il fait la Shmoneh Esrei, la prière, il est comme un Mishkan, lui-même il devrait être comme un petit Mishkan, un petit tabernacle sur lequel la présidence divine devrait résider. À l'époque, il était donc prévu, avant la faute du Vaudor, que chacun soit un petit Mishkan, mais bon, ça n'a pas été possible parce qu'on a fait la faute. eh bien, on le fait à un endroit central, au centre du camp d'Israël. Et pour chacun d'entre nous, il y a quelques moments dans la journée, on essaye d'en faire un sanctuaire, de sanctuariser les moments de prière en se concentrant et en faisant une belle prière qui rappelle ce Mishkan. C'est un moment de rendez-vous, un moment de Hashrat Shrina et qu'il faut savoir investir, sur lequel il faut bien investir et ne pas le faire trop vite et ne pas l'expédier, mais le faire avec tout son cœur et toute son âme.
Et ce soir, on va avoir une belle table qui va être notre Mishkan. Donc, on y pensera aussi. Mais en vous écoutant, Rav, je me disais, mais c'est ce qu'on fait avec les tefilines. Je sais pas, je me suis dit, y compris physique, sur le corps, sur le cœur, sur la tête. Et on le fait d'abord avant la prière. Enfin, je me disais ça en vous écoutant.
Les tefilines, on les met sur la tête, évidemment, en pensant au Aaron, au cerveau. On les met sur la main, donc on pense à la main, c'est l'action. En dirigé vers le cœur, évidemment, le cœur. Donc on a tout maîtrisé, tout dominé, tout est sous contrôle. Et puis on a également, vous avez parlé du Shabbat, ce soir, les bougies de Shabbat qui nous font penser à la menorah, les chalots de Shabbat, évidemment, la table, le shulchan du Beit HaMikdash. Il y a la chambre à coucher qui en fait représente les kérouvim, les deux chérubins, le mari et la femme, qui se retrouvent. Et donc il y a toute une ambiance shabbatique de délectation, de menoucha et de kedusha qui nous fait penser au Mishkan. Et on espère que justement ce Shabbat, comme tous les Shabbatot, on aura le sroud, le mérite de recevoir la Shekhina, le Chadodi, l'Ikrat Kala, notre Neshama Yetera, notre âme supplémentaire qui nous permettra de toucher un peu plus, de ressentir un peu plus le divin, la spiritualité de Shabbat.
Amen. Rav Guy, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je vous rappelle la conférence exceptionnelle qui sera donnée par Rav Eli Lemel et le professeur Dov Maimon, qui est le directeur de recherche des Jewish People Policy Institute. C'est un homme considérable. Donc tous les deux vont donner une conférence, je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas ce mot, il est facile à trouver. C'est 5 mois après le 7 octobre, de l'électrochoc au bilan, c'est au Salon Hoche, et ce sera mercredi 20 mars à 20h30, conférence exceptionnelle. Voilà, cette émission est à présent terminée, merci d'y avoir prêté attention, excellente soirée à tous, et Shabbat Shalom.
Shem lo yivne bayit, shalom leivoyna boyim, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymai. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leivoyna boyim, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymai.